Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40. Merci à vous tous d'être fidèles au poste. Et c'est le dernier Instorel de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
Un site d'information sur abonnement qui vous propose des documentaires et des reportages, ça s'appelle Spicy, S-P-I-C-2-E. On leur doit en 2016 le projet Conspi Hunter, chasseur de conspirationnistes, qui a fait un tabac. L'équipe avait créé sa propre vidéo complotiste dans les règles de l'art, puis avait créé un faux profil sur les réseaux sociaux pour la diffuser et pénétrer les sphères numériques du complot. Une démonstration emmenée dans nombre de lycées français pour y confronter les ados. 3 ans après, nouvelle expérience digitale menée avec 6 élèves journalistes de Sciences Po. Chacun va créer son profil politisé sur Facebook à l'orée des européennes. Fil sur lequel il sera ensuite mitraillé de messages virulents. Comment la machine à se faire des amis est en réalité une machine à fabriquer des ennemis? Démonstration.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Voilà, bonjour à tous et bonjour à Jean-Bernard Schmitt qui est cofondateur de Spicy. Vous avez vu, je l'ai appelé. Hein, parce que quand on l'entend comme ça, on ne sait pas forcément où le trouver.
Mais c'est parfait à la radio.
SPI, c'est deux œufs. Voilà. Vous êtes accompagné de Marie Dorsay. C'était pas prévu qu'elle soit là aujourd'hui, mais je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Marie.
Bonjour.
Voilà, donc étudiante en dernière année de Sciences Po. Vous faites partie de la bande, vous faites partie de la team. Vous êtes Mademoiselle France Insoumise dans ce dispositif expérimental. Et je note aussi que vous faites vos premiers pas de radio à France Bleu Poitou. C'est donc ça. Voilà, bienvenue dans la grande maison ronde. Le documentaire, c'est La Nouvelle Fabrique de l'Opinion. Il se divise en 3 épisodes d'une 30aine de minutes. Il est réalisé par Thomas Huchon. Je le dis comme je le pense, je pense qu'il n'y a aucune révélation sur le fonctionnement de Facebook, mais que c'est une vraie démonstration quasi par l'absurde et qui du coup s'avère finement pédagogique. Ça nous permet de comprendre le fonctionnement de ces profils de l'intérieur. Et par ailleurs, je vous recommande l'excellent numéro 1. Vous savez, c'est ce journal qui se déplie, qui est en kiosque depuis mercredi, qui est très bien fichu, qui est en partenariat avec vous, Jean-Bernard Schmitt.
Exactement.
Voilà, et qui vient compléter l'analyse de ce que vous produisez, vous, à l'image. Alors, il y a Bruno Donnet, on est vendredi. Salut Bruno.
Je vous le dis comme je le pense. Bonjour Sonia.
Mais il y a aussi la Madeleine du vendredi. Alors, dépêchez-vous de m'écrire. Vraiment, dépêchez-vous. Parce que l'instant M à radiofrance.com, ça, c'est, évidemment, c'est l'adresse. Vous la connaissez par cœur. J'ai un super cadeau ce matin pour le premier arrivé. Le dernier pharaon. Retour des aventures de Blake et Mortimer. Revu par Schuiten et Van Dormel. Je suis bien mignonne de vous l'offrir parce que je le rapporterai bien à la maison. Ma question. La voici. Comment s'appelait la coach vocale d'un télécrochet qui démarrait toujours son cours par des vocalises?
Yes.
Ça va vous mettre de bonne humeur pour la journée. L'instant M à radiofrance.com. Good night and good night. La semaine médiatique de Bruno Donnet. Cette semaine, Bruno, vous avez voulu rapprocher deux événements. Le 75e anniversaire du débarquement et le 30e anniversaire des événements de la place Tiananmen en Chine. Car vous avez vu dans leur traitement un contraste stupéfiant.
Oui, vous le savez Sonia, la télévision est un lieu de mémoire ultra puissant et totalement essentiel. Seulement voilà, selon que vous vivez dans une démocratie ou dans une dictature, eh bien la télé peut avoir la mémoire plus ou moins sélective. Ainsi, cette semaine, en France, les chaînes n'ont cessé de nous montrer, et on s'en réjouit, des images du D-Day. En Chine, maintenant, les médias n'ont pas pu dire le moindre mot au sujet des massacres qui ont ensanglanté la place Tiananmen en juin 1989. Pire, comme le racontait parfaitement bien mardi, le 13h de France 2.
Ce matin en Chine, lorsque Tiananmen, 30 ans après, est évoqué par les médias internationaux, la télévision se coupe.
Le régime a carrément coupé le sifflet et le signal de la chaîne américaine CNN au moment où elle rediffusait une image devenue iconique du printemps chinois. Cette image, vous l'avez tous en tête, c'est celle de ce jeune homme seul face à une colonne de tanks qui, en se dressant devant eux avec un petit cartable d'étudiant dans une main et un journal dans l'autre, parvint à les stopper le 5 juin 1989. Ce moment d'archives, ce moment d'histoire, nous nous en souvenons tous ici, en Occident. Mais pas en Chine. Pourquoi? Eh bien parce que, comme le soulignait mardi le formidable documentaire qu'Arte a diffusé sur son antenne...
Depuis, les autorités chinoises ont tout fait pour qu'on l'oublie. Comme elles veulent faire disparaître tout souvenir de ce qui avait précédé.
Depuis 30 ans, aucune image de Tiananmen n'a jamais été diffusée officiellement en Chine. Résultat, c'était toujours dans le 13h de France de mardi lorsqu'une journaliste étrangère montre à un jeune chinois la photo de cet homme face au blindé et lorsqu'elle lui demande
« Avez-vous déjà vu cette photo ?»
Voici la réponse qu'elle obtient.
Non.
Qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'est une parade militaire ?
Édifiant. Alors voilà, dans le documentaire d'Arte intitulé « Le peuple contre le parti » que vous pouvez tous voir en replay jusqu'au 2 août, on entend comment, en 1989, le porte-parole du gouvernement niait farouchement une réalité que les caméras du monde entier avaient pourtant toutes parfaitement captée.
Personne n'a été tué. Et aucun tank n'a écrasé quiconque. Les médias internationaux qui parlent de massacre mentent.
On entend ça et l'on se demande un peu si 30 ans après, il n'a pas réussi à convaincre de ses mensonges une bonne partie de la jeunesse chinoise. Mais, fort heureusement, dans le même documentaire, on découvre aussi des images glaçantes de l'armée chinoise en train de tirer à grands coups de fusil mitrailleur sur ses étudiants. On voit parfaitement bien comment au cœur de la place Tiananmen, un balai incessant d'ambulances est venu évacuer des dizaines de corps sans vie. Et l'on comprend, photo d'hommes agenouillés à l'appui, que les massacres de Tiananmen ne se sont malheureusement pas terminés avec le nettoyage de la place.
Des dizaines de milliers d'arrestations et pour les ouvriers arrêtés, la peine prévue en cas d'émeute. Une balle dans la nuque.
Image rare, image infiniment précieuse que les Chinois ne verront pas encore. Car comme le faisait remarquer le JT d'Arte cette fois, voici ce que diffusent en boucle des chaînes de télé totalement verrouillées par l'État.
Les contenus frappent par leur superficialité. Faits divers, scandales, sujets people, divertissements, c'est là toute la force du régime. Multiplier les contenus pour brouiller les pistes, divertir pour moins informer, consommer pour moins penser.
Alors reste à savoir jusqu'à quand divertir pour ne pas informer suffira à contenir la soif de démocratie d'1,3 milliard de personnes qui, il y a 30 ans déjà, ont bien failli, pratiquement sans image, renverser un régime si peu soucieux de la sienne.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à réécouter sur franceinter.fr. Il me semble moi que c'est une question passionnante, comment la télévision est un lieu et un outil de mémoire ou comment au contraire elle est là pour éteindre la mémoire. Et par ailleurs, je félicite Coralie, qui a reconnu Armand Altaï. Bravo Coralie, vous repartez avec le retour de Black et Mortimer qui vient de sortir en BD, qui est d'ailleurs un partenariat France Inter. Et ben voilà, spicy, on y va.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Spicy, je vous l'ai dit, c'est ce site d'info qui vous propose sur abonnement, qui vous propose des docs et du reportage qui mène cette expérience digitale et qui la met en image. Justement, c'est l'avantage, ça va pouvoir servir, je vais dire, de matériel pédagogique pour nous tous, les parents, pour les profs, pour les ados. Et puis surtout, c'est une façon de partager quelque chose dont nous allons tous tirer des leçons. Facebook, 40 millions d'inscrits en France, une heure par jour à faire défiler les fils de son profil. Vous avez créé Jean-Bernard Schmitt, c'est vous qui avez produit ce documentaire « Six faux profils », chacun dans son sillon politique. Marie Dorsec est à mes côtés. Alors dites-moi, six faux profils, dites-moi les profils politiques, chacun.
Donc il y avait Rassemblement National, Les Républicains, Divers Gauche, mm-hmm. Gilets jaunes, France mm-hmm. Insoumise et il m'en manque un dernier.
LR.
La République en marche. Vous avez au début un petit peu ramé pour vous faire des amis. Vous avez choisi votre photo de profil. Vous avez liké aussi des contenus culturels, sportifs. Enfin, vous avez vraiment fabriqué des identités factices, ça c'est sûr, mais plurielles, complexes, etc. Et puis un jour, Facebook vous propose d'ajouter un filtre, sticker. Exactement. Est-ce que vous pouvez décrire à quoi il ressemble, Marie, ce petit sticker ?
Alors moi, pour le profil France Insoumise, oui. C'était un sticker avec le phi de symbole de la France Insoumise mm-hmm. et en dessous marqué « Je vote la France Insoumise mm-hmm. ». Donc je pouvais ajouter sur ma photo mm-hmm. et qui se voyait très clairement quand on voyait mon profil sur Facebook défiler.
Voilà, donc on accepte ce sticker qui affiche la conviction politique et là, d'un seul coup, tout change.
What the fuck ? Hyper chaud. Je sais pas, 218 demandes d'ajout en ami, quoi. J'ai des gens qui m'envoient des messages, Non mais... C'est un truc de malade. Mais qu'est-ce que je fais ? J'accepte tout le monde ?
Alors, on a accepté tout le monde. Jean-Bernard Schmitt, évidemment. Et c'est ainsi que chacun de vos faux profils va basculer dans une sphère politiquement définie, identifiée et reconnue par les algorithmes de Facebook.
Totalement. En fait, c'est le premier échelon de ce qu'on a appelé l'enfermement social, la façon dont les algorithmes de Facebook vont amplifier chacun de nos choix. Parce que, en fait, ce qu'on montre dans ce documentaire, et on le montre, comme vous le dites, pour la première fois, vraiment en vidéo et en temps réel, c'est comment vous êtes pris par la matrice de Facebook, comment les algorithmes intègrent extrêmement rapidement les informations que vous lui donnez et comment ils les multiplient, ils décuplent en fait les choix que vous avez faits pour vous pousser, juste vous garder dans un environnement dans lequel vous êtes entre guillemets confortable intellectuellement et idéologiquement parlant.
Marie, mademoiselle France Insoumise, vous l'avez vécu aussi en petit à petit comme vos confrères et camarades de classe, intégrant des groupes. Il faut que vous expliquiez ce que c'est qu'un groupe fermé sur Facebook.
Oui, alors un groupe en fait c'est une page administrée par quelqu'un. Il faut demander à y rentrer et c'est en général des gens qui partagent une opinion. Voilà, moi le premier groupe sur lequel je suis rentrée c'était Résistance Insoumise par exemple. Et beaucoup de groupes en fait, il faut demander, mais on est accepté assez rapidement et avec le sticker c'est encore plus facile de rentrer dedans.
Jean-Bernard Schmitt, le sticker c'est un levier pour accélérer le processus ou ça ne risque pas tout simplement de fausser cette expérience?
Mais en fait... Alors, vous pourriez dire qu'on met des biais partout, mais de toute façon, il y a des biais partout chez Facebook. La seule différence, c'est que là, on vous les montre, alors que, en revanche, Facebook, lui, ne vous montre jamais les biais qu'il met à l'information, à votre enfermement. Nous, on est transparents là-dessus. Et on les a pas inventés, les filtres. Il y en a des milliers sur Facebook. Donc, de toute façon, non seulement ils sont à disposition, mieux que ça, Facebook vous les propose, vous les suggère. Là, le filtre gilet jaune que Octavie met, c'est Facebook qui lui conseille de faire ça. Et voyez le résultat, même pas 24 heures après, 218 demandes d'amis et ils ont tous vécu la même chose.
Alors,
donc,
ce qui est intéressant,
le biais, il existe en soi sur Facebook.
Absolument, c'est que ça s'est produit ces trois derniers mois, donc vous avez vécu en direct l'incendie de Notre-Dame et vous six, Marie, avez vu apparaître chacun sur votre profil une version des faits totalement divergente.
Pendant que sur le profil Les Républicains, on pleure le drame des chrétiens, sur les profils Insoumis ou Divers Gauche, on critique les sommes qui vont servir à la reconstruction de la cathédrale. Sur le profil Gilets jaunes, c'est un complot du gouvernement. Sur le profil La République En Marche, c'est un coup des Gilets jaunes. Et sur le profil Rassemblement National, c'est une attaque contre les chrétiens. Un attentat commis par des musulmans.
Ce qui est intéressant, Marie d'Orsay, c'est que chacun d'entre vous a vu comment sur son fil, chaque individu, finalement, reçoit un fil d'information unique, qui ne ressemble absolument pas à celui de son voisin.
C'est exactement ça, et je pense que c'est ce qu'on cherchait à montrer, en fait, avec ce documentaire, c'est que vraiment, on est dans des bulles complètement hermétiques les unes aux autres, et on a des informations, sur une même information, on a des avis et des impressions complètement différentes, si bien qu'on en sort, en fait, avec... une vision différente de l'info, en fait, de l'événement.
Alors, Jean-Bernard Schmitt, vous convoquez le projet Zeitgeist, ce sont des spécialistes de l'analyse des data, et en fait, ils vont demander à vos étudiants, chacun de, on va dire, étiqueter 10 contenus par jour reçus en tête sur leur profil tous les matins quand ils allument l'ordinateur ou le smartphone. Les résultats sont édifiants.
Voilà, alors ça, c'était très important. C'était la façon de passer du ressenti, on aurait pu me dire ça n'est que du ressenti, à de l'analyse statistique. Donc, 30 jours d'analyse, et qu'est-ce qu'on voit? L'immense majorité...
2000 publications, voilà,
2000 publications analysées et scannées, 1920 publications pour lesquelles il n'y a rien en commun entre les profils. C'est-à-dire que 1920 publications qui n'ont été vues par aucun profil en commun, ensemble.
C'est incroyable.
Et là, vous avez vraiment, mais statistiquement montré...
C'est-à-dire que sur 2000 publications, il y en a 73 qui ont été vues seulement par deux profils, 6 qui ont été vues par trois profils, une seule par quatre.
Et toutes les autres,
elles n'ont été vues que par un seul profil. C'est-à-dire que quand on est France Insoumise, on ne voit jamais la même chose que quand on est République En Marche.
Exactement. Ouais. Petite anecdote, le poste qui a été vu par quatre, c'est une pub Facebook.
C'est vrai.
Donc en fait, vous ne voyez rien en commun avec vos voisins. Et c'est exactement ça qu'on voulait raconter dans un temps, encore une fois, de polarisation politique. Donc qui est important au moment où votre opinion se forge. Et ce que ça montre, c'est que vous avez une vision segmentée du monde et au fond, une réalité, vous vivez une réalité numérique, mais qui a des incidences très profondes, totalement différentes de celles des autres.
Alors, vous demandez aussi à des chercheurs de venir, auxquels d'ailleurs, discussion auxquelles participe Bruno Patino, qui est le doyen de l'école, de venir analyser justement ce mécanisme.
Si vous n'êtes exposé qu'à un seul type d'information, forcément vous allez vous ancrer, vous enraciner dans vos opinions.
Si vous êtes en permanence avec quelqu'un qui a la même pensée que vous, etc. Oui, c'est effectivement confortable, mais vous n'avez plus d'interaction.
Vous allez même doucement, probablement, considérer que toute opinion adverse est une opinion marginale.
Ça va même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous enfermez tellement que vous risquez d'avoir un effet de nous contre eux.
Nous contre eux. Ça, pour le coup, on démontre très bien comment cette vaste machine à se faire des amis numériques, Marie Dorsay, finalement est une vaste machine à se fabriquer des ennemis et des adversaires.
Complètement. En fait, moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un nous.
Oui.
Contre Emmanuel Macron, c'était
oui. Vous étiez Mademoiselle France Insoumise.
Voilà, moi, France Insoumise, c'était vraiment contre Emmanuel Macron. Mmh. Et c'était, il faut voter pour contrer Emmanuel Macron et on s'encourageait entre nous, enfin, on s'encourageait entre nous pour aller voter, pour être contre Emmanuel Macron. Et du coup, ça donne vraiment un effet de bulle, en fait. Et on se sent presque à l'aise en se disant... on est avec des gens qui pensent comme nous et c'est chouette, quoi.
Jean-Bernard Schmitt, ça devient de plus en plus aigu à mesure qu'on approche du vote. Et notamment, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire sur la trêve médiatique.
Voilà, théoriquement...
La pseudo-trêve médiatique.
Ouais. Théoriquement, à partir du vendredi minuit, plus de débats, plus d'opinions, les journaux ne relaient plus les paroles politiques. Il y a un endroit, en revanche, où la politique continue, mais de manière
ultra virulente,
c'est Facebook. Voilà. Mais un point dingue. Et là, les effets de groupe jouent à fond. C'est-à-dire que...
Et vous avez un chercheur du Cevipof qui vous dit, plus on avance dans les années, et plus le nombre d'électeurs qui se décident à la dernière minute, dans les 40 dernières 8 heures, est important.
Est important. Et ça joue sur les marges. Or, ce qu'on a vu et ce que Thomas Huchon a très bien montré dans son documentaire sur Trump, là, il y a 2 ans, c'est pareil, ce sont les marges qui jouent, sur lesquelles se jouent les élections. Et justement, c'est à la marge que vous arrivez à toucher les électeurs au dernier moment, et ce sont souvent ces marges-là qui font basculer les scrutins.
Alors, question sur cette expérience. On sort quand même d'une année déterminante où WhatsApp a fait basculer les élections en Inde et au Brésil, où il y a eu le scandale Cambridge Analytica. Alors, où sont les bots, où sont les fermaclics, où sont les pages financées par des puissances extérieures, où est l'utilisation des données personnelles? Est-ce que vous ne passez pas finalement à côté des grands enjeux qui concernent Facebook et la démocratie en 2019?
Alors, je dirais non, parce que c'est un autre travail. Oui. Celui-ci, il avait un but, c'était de montrer en temps réel quel poids, impact pouvait avoir Facebook sur la formation de nos opinions. Dans la socialisation politique, la famille, l'école, les médias, c'est essentiel, c'est connu. Facebook, aujourd'hui, a un rôle et un impact énorme, mais ça ne se sait pas. Et surtout, on ne sait pas. Comment ?
Et alors, quand je précise que Facebook a refusé de participer à ce travail et de le commenter. Un dernier mot, comme Conspi Hunter, vous imaginez ces 3 épisodes de 30 minutes comme une forme de matériel pédagogique à usage de tous ?
Et ben, je vous confirme, il est en ligne depuis avant-hier. On a déjà plusieurs demandes d'établissements scolaires pour venir les voir avec le documentaire et faire des conférences.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Spicy, je le rappelle, c'est le nom du site sur lequel vous pouvez trouver cette nouvelle fabrique de l'opinion, et puis le 1 qui est en kiosque depuis mercredi, la nouvelle fabrique de l'opinion sur Facebook. Et ben merci à vous tous. François Audouin, mon réalisateur, Anne-Cécile Perrin qui a préparé l'émission, Redouane Tella et Fabrice Desmaz à la technique.